Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Fanélie Carré-Comte, la secrétaire générale d'Enercop, le leader en matière d'électricité verte. Bonjour Fanélie.
Bonjour Alice.
Est-ce que je me suis trompée sur le descriptif d'Enercop? Tu peux peut-être aiguiller mes propos, non?
Je pourrais les développer parce qu'effectivement, Enercop, c'est en fait le premier fournisseur d'électricité qui a été créé en alternative à EDF au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Et c'est un fournisseur d'électricité qui a des caractéristiques uniques en fait sur le marché de l'électricité aujourd'hui, puisque nous sommes le seul fournisseur national coopératif à fournir de l'électricité 100% renouvelable en contrat direct à nos consommateurs qui aujourd'hui sont à peu près 90 000.
En effet, c'est beaucoup plus précis que mon petit descriptif. Moi, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. On a, pour ne rien vous cacher, on a bien galéré avec Fanélie pour se connecter puisque nous sommes encore à distance. Donc, on va essayer de faire un minimum de bruit et vous certifier une belle écoute, mais c'est assez compliqué. Et donc voilà. Et d'ailleurs, tu es confinée ou tu as repris le travail puisqu'on est, on enregistre juste après le déconfinement?
Non, en fait, toutes les équipes d'Enercop aujourd'hui sont encore en télétravail. On va organiser un retour progressif, en particulier pour les équipes qui ont un besoin technique sur certaines fonctions de se retrouver dans les locaux. Mais on va faire ça de manière très limitée et très progressive jusqu'à l'été, jusqu'à début septembre, parce qu'on a évidemment un enjeu prioritaire de sécurisation des équipes et d'accompagnement par rapport aux enjeux sanitaires. Et donc, le moins les personnes prennent les transports en commun et le mieux c'est dans la période, même si c'est une situation qui est compliquée parce que le télétravail à distance de manière intégrale sur longue durée, ça pose quand même pas mal de problèmes sur l'organisation du travail, sur le collectif, sur le fait que les personnes sont quand même isolées et qu'il faut accompagner tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est toujours tous en télétravail. Et donc, moi-même, je suis dans mon domicile.
Et tu es à Paris?
Et je suis à Paris, dans le 20e arrondissement de Paris, plus précisément.
D'accord. Et toi, tu es secrétaire générale et donc quel est ton rôle d'ailleurs au sein d'Enercop? J'ai complètement oublié la première partie de l'empreinte qui est de te présenter, mais je pense qu'on va le faire à la fin. Parce que là, j'ai vraiment envie de connaître ce rôle de secrétaire générale. Justement, tu me parlais de tes équipes. Est-ce que tu es en contact direct avec toutes les équipes? Enfin, du coup, voilà.
Alors, en fait, oui, moi, je fais plusieurs choses dans Enercop. Le secrétariat général, en fait, c'est l'accompagnement de les instances, ce qu'on appelle les instances politiques dans Enercop, puisque Enercop, donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est une coopérative, et donc on attache une importance extrêmement forte à l'organisation de la vie démocratique. Donc peut-être qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, mais le fait que les sociétaires sont en fait les propriétaires de la coopérative, et donc ce sont eux qui qui décident des grandes orientations stratégiques de la coopérative et qui élisent une instance qui s'appelle le conseil d'administration, qui est donc l'instance qui va représenter les différentes catégories de sociétaires pour prendre les grandes orientations stratégiques. Et donc moi, je m'occupe de l'accompagnement en fait des instances et donc de toute cette partie vie des sociétaires, accompagnement du conseil d'administration. Par exemple, en ce moment très précisément, on organise la préparation de notre assemblée générale et donc c'est moi aussi qui accompagne l'organisation de ce temps démocratique important qu'est cette Assemblée Générale. Je m'occupe aussi du lien.
Qui devrait se dérouler quand, d'ailleurs, cette Assemblée Générale?
Qui aurait dû se dérouler à l'origine le week-end du 20 juin, le week-end de la Fête de la Musique. On avait un très beau projet. On voulait, c'était les 15 ans d'Enercop, puisque, donc, comme je le disais tout à l'heure, Enercop est né il y a 15 ans. Donc, on avait prévu d'organiser toute une belle manifestation et un festival à la Cité Fertile à Pantin. Et malheureusement, on a évidemment réorganisé tout ça. Et donc, au final, on va faire...
On peut le faire sur House Party, au pire. Hein.
Ouais. on s'est plutôt dit que... déjà, on essayait de reporter à plus tard, dès qu'on le pourra, le rendez-vous physique qu'on voulait faire. Et donc là, en fait, on fait une assemblée générale qui va être exceptionnellement en ligne, à distance. Mais du coup, on essaie, parce que ce que je te disais sur notre dimension coopérative et l'aspect vie démocratique auquel on est très attaché. Donc là, on est en train de monter tout un cycle de webinaires d'outils en ligne qui vont permettre en fait à nos sociétaires de pouvoir accéder à un maximum d'informations et poser un maximum de questions sur les enjeux d'Enercop à l'occasion de cette assemblée générale. Donc on fait contre mauvaise fortune, bon cœur, on profite de la situation entre guillemets pour innover un peu dans nos pratiques et notamment nos pratiques numériques. Et donc du coup, moi, je m'occupe un peu de tout ça avec les personnes qui s'occupent de plus spécifiquement de la vie coopérative. Donc voilà, c'est ça le rôle de secrétaire général. Il y a aussi la question du lien avec tout le réseau des coopératives, puisque ça, on n'a pas eu le temps encore de l'expliquer, mais Enercop, en fait, c'est un réseau. C'est une coopérative nationale et 10 coopératives locales, parce que la dimension territoriale est extrêmement forte dans notre projet. Et donc, moi, je m'occupe aussi de faire le lien entre ces différentes coopératives. Et puis, j'ai aussi des fonctions de représentation externe, de plaidoyer, de suivi des partenariats stratégiques autour toujours de cette dimension coopérative d'Enercop.
Top, génial. Moi, maintenant, j'ai quand même envie de savoir qui tu es, Fanélly, parce que c'est vrai que je voulais connaître ce rôle, puisque, en fait, pour moi, secrétaire général, c'est une fonction qui veut un peu tout et rien dire, en général, et j'avais besoin un peu d'identifier tes missions plus concrètement. Et toi, alors, d'où tu viens? Est-ce que tu as toujours été une écolo convaincue, dirons-nous, ou pas?
Alors moi, en fait, mon parcours, je viens pas spécifiquement du milieu de l'écologie et de la transition énergétique. À la base, je viens plutôt du milieu de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire moi, ce qui m'a toujours animée dans mon parcours, c'était la question de ce mode d'entreprendre spécifique. D'ailleurs, je pense que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Il y a différentes manières de faire entreprise. Et donc, c'était un peu ça qui était le fil conducteur de mon parcours. Quand je parle d'économie sociale et solidaire, j'ai travaillé dans des mutuelles, j'ai travaillé dans des associations. Ces structures économiques qui ont comme particularité l'organisation collective, la gouvernance démocratique et puis la non-lucrativité. J'ai travaillé dans le secteur de l'éducation, j'ai travaillé dans le secteur du logement des jeunes. Et puis, j'ai aussi eu une expérience politique, une expérience d'élu, puisque j'étais aussi engagée politiquement et j'ai eu l'honneur d'être députée à l'Assemblée nationale pendant l'ancienne mandature, pendant 4 ans. J'étais députée de Paris, donc j'ai aussi vu les choses côté pouvoir public et mandat d'élu. Et donc, j'avais plutôt toujours travaillé un peu sur les questions sociales. C'était plutôt ça, mon prisme. Et puis, au fil des années et au fil de mes réflexions et de mon parcours, la question écologique a pris évidemment de plus en plus de place au fur et à mesure qu'on en prenait aussi de plus en plus conscience dans le débat public. Et donc, quand mon expérience à l'Assemblée nationale s'est terminée et que j'ai voulu repartir sur un parcours professionnel plus classique, j'avais absolument envie déjà de rester dans l'économie sociale et solidaire, et puis de trouver un champ d'activité qui me permettait de concilier ces préoccupations sociales et écologiques. J'ai eu l'opportunité de travailler pour Enercop, et ça a permis de faire sens par rapport à tout ça. Donc là, maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans, je crois. Donc, c'était une belle poursuite de mon parcours en cohérence avec tous ces engagements-là.
Tu parles de faire sens. En fait, c'est un parcours qui est très engagé quand même depuis le début. J'ai l'impression, même si c'était sur les problématiques beaucoup plus sociales de prime abord, c'est devenu environnemental par la suite. Donc, tu es quand même quelqu'un d'engagé. Et quelles étaient tes études? Tu voulais faire quoi en fait à l'école?
C'est une très bonne question. J'ai des études un peu généralistes. Je suis diplômée de Sciences Po Bordeaux.
D'accord, oui, Sciences Po, c'est assez généraliste en effet. Ouais.
Mais plus sur la partie plus sociologique, on va dire, sciences politiques. Et puis après, j'ai aussi fait un master à l'Institut français d'urbanisme autour des questions de politique urbaine, d'aménagement du territoire.
D'accord.
Et à l'époque, j'avais pas trop. Pendant longtemps, je voulais travailler dans les politiques culturelles. Et puis.
C'est un parcours un peu politique en même temps. Donc ça recoupe un petit peu.
Ouais, mais parce que la politique, en fait, faut pas le prendre au sens partisan. La politique, c'est le fonctionnement de la société. Et c'est aussi qu'est-ce qu'on a envie de changer et quel impact on a envie en fait d'avoir sur le cours des choses. Et effectivement, ouais, moi dans mon parcours, je me suis toujours posé cette question du sens, de l'utilité, de l'impact, et donc d'essayer de me trouver à des endroits qui étaient en lien avec mes valeurs et qui me permettaient d'avoir le sentiment de contribuer à ce que la société dans laquelle on vit s'améliore.
Ouais, et puis j'ai l'impression que c'est un puissant fond en fait, hein, puisqu'on se trouve.
Et c'est toujours un puissant fond. Oui, c'est sûr.
On trouve toujours des problèmes. Et d'ailleurs, là, avec la crise sanitaire qui s'impose à nous, je pense qu'il va y avoir encore plus de problèmes et de choses à soulever. Depuis tes 3 ans chez NERCOP, puisque c'est bien ce que tu m'as dit, hein, ça fait 3 ans que tu es secrétaire général, est-ce que tu as vu une évolution de la demande ou de la souscription à l'offre d'ailleurs?
Ah bah clairement, parce que bon, alors déjà, NERCOP, c'est un projet qui est en fort développement. On a été pionniers, hein, je l'ai dit, il y a 15 ans, on a été les premiers en fait à poser la question de notre système énergétique, c'est-à-dire organisé de manière beaucoup plus décentralisée, basée sur du 100% renouvelable et aux mains des citoyens, autour de cette notion de circuit court de l'énergie sur les territoires, le lien entre les producteurs, les consommateurs et les partenaires au plus près des territoires. Mais on a vu au fur et à mesure des années une forte accélération et par exemple là je disais donc NERCOP aujourd'hui c'est 90 000 clients, ça fait plusieurs années qu'on augmente à peu près de 22-23% notre nombre de clients tous les ans.
C'est incroyable. Est-ce que du coup vous avez des partenariats, vous développez des partenariats ou pas?
Ah bah oui, on développe beaucoup de partenariats parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, à la base, la création d'NERCOP, c'est une aventure collective. C'est une aventure qui a été fondée par déjà des organisations et des partenaires, puisque à l'époque, hein, donc on est en 2005, des organisations de l'économie sociale comme Biocop ou la banque éthique, la NEF, et des organisations environnementales comme Greenpeace, les Amis de la Terre, qui se sont réunies pour créer ce projet d'NERCOP. Et donc depuis, les choses se sont beaucoup élargies, on a beaucoup grossi et rallié plein de nouveaux partenaires et de nouvelles personnes. Mais du coup, tout ça pour dire que la dimension partenariale, elle était fondatrice du projet. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un axe de développement majeur de pouvoir, quand on parle de partenaires, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler de collectivités locales, d'élus locaux, on peut parler d'entreprises, on peut parler d'associations, d'organisation de l'économie sociale et solidaire, etc. Mais en tout cas, tous ceux qui partagent les valeurs de transition écologique, de transition énergétique citoyenne, sont pour nous des alliés de première nécessité, parce que il faut agir en transversalité, c'est-à-dire que agir pour sa fourniture d'électricité, ça veut dire aussi agir en lien pour son épargne, pour sa mobilité, pour sa consommation, et donc on essaie aussi de voir comment est-ce qu'on peut créer autour de nous un écosystème finalement de la transition qui permet à plusieurs, par exemple, coopératives de faire alliance pour que on ait cette espèce de d'écosystème alternatif au modèle de consommation et de production dominant, pour essayer d'avoir encore plus d'impact pour la transformation de la société.
Et est-ce que l'offre NERCOP a évolué depuis ces 3 ans? Est-ce qu'il y a une demande différente d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a dû, y avoir des ajustements peut-être ?
Alors nous, on a toujours eu la spécificité qui est assez unique hein, sur le marché de l'électricité, qui est ce qu'on appelle l'offre en contrat direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'offre d'électricité verte, il faut savoir que derrière cette appellation, il y a plusieurs modèles et que la plupart des fournisseurs d'électricité vont en fait acheter de l'électricité sur le marché, voire des fois même sur le marché de l'électricité nucléaire, puisqu'il y a un marché spécifique qui s'appelle l'AREN, qui est le marché de l'électricité nucléaire. Ils vont acheter l'électricité sur le marché, ils achètent à côté quelque chose qu'on appelle les garanties d'origine, qui sont en fait des certificats verts qu'on peut acheter de manière décorrélée à l'électricité, qu'on va coller sur l'électricité issue du marché, et on appelle ça une offre verte. Nous, on n'a pas ce modèle-là, puisque notre modèle, il est depuis le début celui du contrat direct, c'est-à-dire qu'on va acheter en direct au producteur afin de garantir à nos consommateurs une traçabilité complète de leur énergie. Et aujourd'hui, on est en capacité de leur dire, ben, si vous êtes chez Enercoop, vous savez que votre facture d'électricité rémunère à peu près aujourd'hui 300 producteurs d'énergie renouvelable en France, et on vous donne la liste, on vous donne les noms, et vous avez une garantie de votre traçabilité de l'électricité qui est donc en contrat direct avec ces producteurs-là. Donc, ce qui a changé au fil des années, ben, c'est que le nombre de producteurs s'est étoffé, puisque plus on a de clients et plus on augmente aussi notre nombre de producteurs. La physionomie un peu de ces producteurs s'est étoffée, puisque par exemple aujourd'hui, on avait beaucoup d'électricité hydraulique pour des raisons réglementaires. Aujourd'hui, on diversifie beaucoup plus notre mix et donc on a beaucoup plus de projets éoliens ou photovoltaïques. Donc ça évolue un peu au fil des années. Mais en fait, je crois surtout que la promesse initiale du 100% contrat direct et 100% renouvelable, elle est restée la même. J'ai l'impression que ce qui change, c'est la capacité des citoyens à mieux comprendre, en tout cas être plus exigeants par rapport au choix de leur fournisseur d'électricité et leur compréhension du système énergétique.
Bien sûr. Et de leur fournisseur en général, d'ailleurs.
Voilà. Et ça a vraiment changé, parce que il faut aussi se rappeler qu'en fait, pendant très longtemps, le fait que le marché de l'électricité était ouvert à la concurrence était quelque chose qui n'était pas forcément su par les citoyens. Beaucoup de gens pensaient encore que EDF avait le monopole et qu'on n'avait pas le choix et que le fournisseur d'électricité, c'était EDF. Jusqu'à il y a 2 ans, quand on faisait des sondages là-dessus, il y avait des chiffres qui disaient qu'un Français sur deux ne savait pas qu'il pouvait changer de fournisseur.
La question.
Voilà,
c'est puis ça. Les gens ne se posaient pas la question. En fait, finalement, c'est quelque chose d'acquis et c'était compliqué de se poser la question à ce sujet-là. Donc, oui, tout à fait.
Et là, on voit que ça a changé. Aujourd'hui, les chiffres, je crois que maintenant, c'est 2 Français sur 3 qui savent qu'on peut changer de fournisseur d'électricité et qui, du coup, nous, on appelle ça aller voir derrière la prise. C'est l'expression un peu qu'on utilise. Se dire, OK, mon choix de consommation, il n'est pas anodin. Je sais qu'il y a des enjeux autour du système énergétique en France et donc en tant que consommateur, je veux être un consommateur citoyen, un consommateur comme on dit, et donc je vais aller me poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ma prise et donc quelles sont les différentes stratégies des fournisseurs d'électricité. Et ça, ouais, on sent bien qu'il y a une augmentation de la prise de conscience et des attentes et des exigences des citoyens par rapport à ça.
Et ces exigences se traduisent comment concrètement ? Est-ce que parfois d'ailleurs il y a un peu plus d'animosité ou pas, ou de méfiance des consommateurs, des consommateurs comme tu dis à juste titre, qui sont acteurs de leur de tout ce qui les entoure en fait. Finalement maintenant ils choisissent leur fournisseur, ils veulent quelque chose de transparent, de traçable, etc. Et est-ce que parfois ils se posent des questions même sur Enercoop ou pas ?
Ah bah nous, oui, ils s'en posent beaucoup et en même temps, on incite à ce qu'ils s'en posent, puisque tout à l'heure, je te parlais de notre Assemblée Générale. Là, par exemple, on est en train de travailler la préparation de cette Assemblée et les documents qu'on est en train de préparer pour qu'il y ait un maximum d'informations qui soient données à nos sociétaires. Et on essaie d'expliquer, de vraiment détailler tout le mécanisme, qui sont nos producteurs, comment ils ont produit cette année, quels sont un peu les grands enjeux autour du modèle économique, etc. Et on essaie d'organiser le maximum d'espaces de discussion et d'échange pour que toutes les questions qui puissent être posées sur la compréhension du modèle le soient. Et puis pour qu'on puisse aussi être challengé, parce que les modèles ils sont jamais parfaits, parce qu'on peut toujours faire mieux en termes d'amélioration de l'impact, de la stratégie d'accélération de la transition énergétique, etc. Donc il y a vraiment cet enjeu de pouvoir, au niveau de nos sociétaires, faire en sorte qu'ils puissent le plus contribuer aux réflexions et à la compréhension du modèle. Et après, j'ai envie de dire qu'il y a aussi des choses qui bougent au niveau des attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. Par exemple, tout à l'heure, je te parlais des différentes offres vertes qui existent. Ça fait quelque temps que, par exemple, les associations de consommateurs se mobilisent aussi beaucoup pour essayer de rajouter un peu des mécanismes qui permettront aux consommateurs de mieux s'y retrouver. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait, par exemple, par le médiateur de l'énergie qui a mis en place un comparateur des différentes offres vertes. Et puis, en ce moment, plus précisément, il y a un projet de label qui est donc en cours de discussion autour de l'Agence nationale ADEME et puis le ministère de la Transition écologique qui réfléchissent à sur la pression des citoyens et des associations de consommateurs notamment à mieux permettre de distinguer les différentes offres vertes et donc permettre aux consommateurs de mieux s'y retrouver. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui sont en train de bouger un peu dans le panorama du marché et du secteur énergétique.
Et on parle beaucoup des particuliers, mais tu vois aussi une évolution de la demande des professionnels de s'équiper de la sorte ou pas, où il n'y a pas encore d'offres pour les professionnels.
Ah si, bien sûr, oui, il y a une offre.
Pareil, tu vois aussi une demande croissante d'énergie verte.
Tout à fait.
Du coup, ouais.
Tout à fait, oui. Aujourd'hui, par exemple, nous, dans nos clients, on a 90 000 clients et parmi ceux-là, on a à peu près 9 500 professionnels. Et on a aussi 100 collectivités locales. C'est important aussi de parler des mairies, des régions, des départements, des communautés d'agglos, etc. En fait, tout le monde chemine de la même manière, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la préoccupation écologique, elle est croissante. Et puis, je crois qu'il y a aussi de plus en plus un enjeu de mettre en cohérence les discours et les actes. On peut parler à longueur de temps d'écologie, de transition, etc. Mais à un moment donné, on doit tous se reposer la question de se dire OK, mais et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Et évidemment, c'est valable pour les particuliers, mais c'est aussi valable pour les élus, pour les collectivités et pour les entreprises. Et donc, on voit aussi ce mouvement et on voit, c'est intéressant, on voit aussi qu'il y a des secteurs d'activité qui bougent beaucoup. Par exemple, nous, ça fait plusieurs années qu'on a accru notre travail en commun et notre partenariat avec les acteurs culturels et par exemple les festivals. Et sur les festivals.
Là, tu vas pas être servi cette année.
Non, malheureusement. Et avant
les
tout,
pauvres. Non, mais on pense à eux quand même. Ah ouais, moi ça. Et quelque chose. C'est les festivals. Tu sais, Green.
We Love Green, ouais.
Oui. Oh, bah, dis donc.
Oui, mais We Love Green, tout à fait. On était partenaire de We Love Green. Et on était aussi partenaire, par exemple, du Festival d'Avignon.
Pareil. Et moi, j'ai du coup dans les podcasteurs, il y a aussi beaucoup d'artistes qui devaient le faire, le Festival d'Avignon. Petit coucou à Madame Meuf, d'ailleurs, un autre podcast de Bababam qui devait faire le Festival d'Avignon et qui est malheureuse. Mais en fait, je pense que tout le monde regrette tous ces événements et à sa façon, quoi.
Ah bah c'est sûr. Et puis malheureusement, il y aura des impacts économiques, sociaux. Enfin, c'est c'est assez.
Et justement, tu penses qu'il va y avoir un avant et un après pour Enercop aussi après cette crise sanitaire, ou tu penses que ça va pas forcément faire changer grand chose, mis à part
pour nos partenaires clients ou pour les deux?
Finalement
tout
puisque l'éco c'est un écosystème global.
Moi, j'ai plutôt le sentiment en fait que ça va renforcer un certain nombre de choses. Déjà, je pense que nous, à Enercop, ça va renforcer un peu notre détermination à avancer sur notre projet, parce qu'au final, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça correspond en fait à malheureusement à un certain nombre de choses contre lesquelles on essaie de se mobiliser, c'est-à-dire les attaques contre la biodiversité, contre le climat, qui ont des conséquences dans la crise sanitaire aujourd'hui, les dérives en fait d'un système économique très mondialisé, libéralisé, le besoin d'un retour à un ancrage local en fait de l'économie. Ça, c'est des choses autour desquelles, enfin, le fait de revoir aussi les priorités, c'est-à-dire se dire qu'à un moment donné, l'essentiel, c'est pas nécessairement la recherche absolue du profit, c'est plutôt comment est-ce qu'on préserve le lien entre les gens, le soin, la protection, le collectif, etc. Toutes ces choses-là, elles sont en filigrane, elles sont constitutives en fait de notre projet depuis 15 ans. Et donc je pense que ce qu'on vit là, ça renforce en fait notre détermination à se dire ok, de toute façon là on n'a pas le choix, il faut qu'on change ce système social, il faut qu'on change ce système économique, il faut le faire parce que les crises reviendront. Déjà on n'est pas sorti de celle-là, il faut commencer par sortir de celle-là, et on sait que si rien ne change il y en aura d'autres, et donc on a besoin je trouve que notre détermination s'en trouve renforcée. Après je pense que j'ai envie de dire que ce qui me préoccupe le plus aussi, c'est la discussion qu'on avait là, par exemple, là, sur les festivals. C'est-à-dire que on a aussi conscience que un certain nombre de personnes, que ça soit des individus ou des entreprises ou des associations, vont subir des grosses conséquences économiques. Et donc nous à Enercop, on avait un enjeu déjà à les accompagner aussi, par exemple en tant que client. Enfin, nous on a mis en place des dispositifs d'aide pour les personnes qui avaient des difficultés, par exemple sur le paiement de leurs factures pour les clients professionnels. Donc, il va falloir qu'on fasse un peu ce suivi de nos clients, de nos partenaires. Il y a tout le volet dont j'aimerais bien qu'on parle aussi, qui est la question de la précarité énergétique. Parce que voilà, le confinement, il a mis en lumière malheureusement des choses qu'on savait, hein, c'est-à-dire que quand on habite dans un habitat insalubre, dans une passoire énergétique, qu'on a des problèmes de mal logement et qu'on doit rester confiné de moins chez soi, les conséquences en termes de santé, en termes d'état psychologique, etc., elles sont énormes. Et donc il y a une grosse urgence à agir sur la précarité énergétique. Je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près 6 millions de foyers, un peu plus de 6 millions de foyers qui sont concernés par la précarité énergétique, et du coup c'est énorme. Et du coup, nous à Enercop, on a un programme spécifique de lutte contre la précarité énergétique qui s'appelle Énergie Solidaire, qui fonctionne sur un système de micro-dons. C'est-à-dire que nos clients font des dons sur facture d'énergie et nos producteurs font aussi des dons d'énergie pour pouvoir financer des associations qui luttent contre la précarité énergétique. Et donc, c'est un programme qu'on est en train de développer, qu'on va développer de plus en plus dans les années qui viennent, parce que on considère que, et ça me permet de faire le lien aussi, on a commencé le podcast où on parlait du lien entre question sociale et question écologique, et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, il faut que toutes les personnes, quelle que soit leur situation sociale, quelle que soit leur situation économique, puissent accéder à la transition énergétique et à une énergie de qualité. Et donc, ça veut dire que pour celles qui sont en mal logement, en précarité, il faut absolument accroître l'action. Et donc, nous, on est très engagés dans cette dimension-là.
Est-ce que tu aurais envie de rajouter des choses, justement ?
Est-ce que j'ai envie de rajouter des choses ? Oui.
Des choses qu'on n'aurait pas abordées ensemble.
Je trouve qu'on aurait peut-être plus parlé peut-être encore du modèle coopératif.
N'hésite pas.
Pour dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que Enercop, c'est une coopérative particulière, puisque donc c'est ce qu'on appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et la particularité de ce modèle, c'est qu'en fait, on a plusieurs catégories de sociétaires qui font du commun, enfin qui font une entreprise ensemble. C'est-à-dire que chez Enercop, les sociétaires, c'est les clients, mais c'est aussi les producteurs, c'est aussi les salariés de la coopérative, c'est aussi les partenaires dont on a parlé, c'est aussi les collectivités locales. Et donc, toutes ces personnes-là font entreprise ensemble et définissent ensemble les orientations de la coopérative. Et ça, c'est très intéressant parce que, à la base, c'est des personnes qui pourraient avoir des intérêts divergents. Par exemple, moi, en tant que consommateur, j'ai envie de payer le moins cher possible. Moi, en tant que producteur, j'ai envie d'être rémunéré le mieux possible. Et ben, nous, on essaie de dépasser ça et de construire un intérêt commun autour des questions énergétiques et de transition.
C'est drôle, j'ai l'impression d'entendre Dominique Mahé, le PDG de la Maïf. Vous êtes dans la même dynamique, cette dynamique.
D'ailleurs, on travaille avec la Maïf.
Tu vois, comme quoi, je sens les énergies.
Et l'autre élément aussi, que si je peux rajouter encore un petit élément.
Bien sûr.
C'est aussi parce que donc pour nous, modèle coopératif, donc ça veut dire un modèle démocratique, mais ça veut dire aussi plein de choses sur le partage de la richesse, le partage du pouvoir, l'organisation du travail, et donc aussi des exigences, j'ai envie de dire, éthiques sur notre modèle, qui sont importantes. Par exemple, on est très attentif à la question des écarts de salaire. À Enercoop, on a des écarts de salaire qui vont de 1 à 3. On est dans cette fourchette-là. Donc, c'est quelque chose d'assez exigeant. Comme je le disais, on a donc un modèle qu'on appelle la lucrativité limitée. Donc, le profit est encadré. Le but premier n'est pas de faire du profit pour faire du profit, mais de pouvoir développer le projet. On n'est pas coté en bourse. Voilà, il y a tout ces
éléments de salaire. Est-ce que tu les vois surtout entre hommes et femmes ou pas? Justement, c'est souvent un sujet délicat, mais...
Alors, pour nous, sur la question des salaires à Enercoop, je crois que notre indice d'égalité, c'est quasiment 1 pour 1. Enfin, je crois qu'on est à 0,98 sur 1. Enfin, voilà, on est quasiment à l'égalité de rémunération femmes et hommes. Donc, il n'y a pas de différence chez nous.
C'est pas un des combats, celui-là, du coup.
Enfin, c'est toujours un combat, hein, parce que malheureusement, je crois qu'il n'y a aucun endroit de la société où on est préservé. Mais en tout cas, chez nous, on est vraiment à l'égalité là-dessus, sur la question des salaires. Et on a aussi un conseil d'administration qui est paritaire. Ça aussi.
D'accord, c'est bien, c'est hyper important.
Et une présidente, une PDG d'Enercoop qui est une femme.
Et une secrétaire générale qui est une femme que j'ai aussi actuellement au micro. Non,
donc, oui. Donc, y a pas mal d'éléments là-dessus. Ouais. Et dans le secteur de l'énergie, c'est pas si répandu que ça.
Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'étais assez étonnée quand j'ai vu ton profil, parce que je trouve ça génial d'entendre aussi des femmes dans ce secteur qui finalement pourrait être un secteur qu'on pourrait classer de base masculin quand on parle d'énergie, etc. Et en fait, de plus en plus de femmes sont là.
Oui, et puis c'est même au-delà de ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour la suite. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue qu'on ne réussira pas la transition écologique si elle n'est pas portée et faite par tout le monde. Et ça veut dire qu'il faut de l'égalité, et évidemment de l'égalité femmes-hommes. Et donc, il y a un vrai enjeu de réussite de la transition autour de cette question.
Bah merci beaucoup Fanélie, merci pour ce moment avec toi, même si nous sommes à distance et que je ne peux pas te voir. Je te souhaite une bonne fin de déconfinement, en espérant qu'on ne soit pas reconfiné, mais de toute façon tu es en télétravail, hein, comme tu me l'as dit.
Oui, on va l'espérer pour tout le monde.
Voilà, et que tout le monde se porte bien, que tes proches se portent bien, que tu te portes bien. Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, Podinstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Et puis n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit 5 étoiles si vous avez adoré l'empreinte sur Apple Podcast. Ça nous ferait vraiment plaisir.